Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Tournepage. Je veux vous parler aujourd'hui d'un écrivain russe qui est considéré comme un des géants de la littérature mondiale. Et si vous demandez à des Russes quel est à leur avis l'écrivain le plus russe de tous les écrivains russes, vous aurez à 99% de réponse Léon Tolstoï. Alors Léon Nikolaïevitch Tolstoï est né le 28 août 1828, ou si l'on prend le calendrier orthodoxe, le 9 septembre. Sa mère, à l'origine, était une princesse Volkonskaya. À l'époque, le tsar Nicolas Ier règne depuis 3 ans. Je rappellerai simplement qu'il a commencé son règne en sévissant contre les décembristes des officiers qui s'étaient révoltés contre le pouvoir. Et en 1830, Tolstoï perd sa mère. En 1837, il a 9 ans, il perd son père. Et il va être élevé sous la tutelle de ses tantes, des sœurs de son père. Et il va passer une grande partie de son enfance là où il est né, c'est-à-dire à Yasnaya Polyana. Yasnaya Polyana, c'est une propriété non loin de Toula, Toula qui était célèbre pour ses fabriques de canons, et c'est actuellement pour ses fabriques de théières, et qui signifie en russe la claire clairière. Et l'enfance de Tolstoï est un peu tumultueuse. Il entre à l'université et puis il la quitte. Il retourne à Yasnaya Polyana, chaque fois comme s'il avait besoin de retrouver ses racines. Le premier livre qu'il fait paraître, c'est en 1851, c'est « Enfance ». Qui sera suivi en 1854 d'une suite, si on peut dire, adolescente. À cette époque, il est entré à l'armée et c'est en 1855 qu'il va vraiment se faire connaître du grand public avec ses récits de Sébastopol. Sébastopol, c'est la guerre de Crimée. C'est la Russie en guerre contre l'Empire ottoman, contre la France, contre le Royaume-Uni. Et pour Nicolas Ier, c'est un peu le début de la fin. Et ces récits de Sébastopol qui mettent en scène des officiers, des hommes de troupes tout à fait simples, vont avoir une diffusion qui, pour l'époque, est assez exceptionnelle. Mais Tolstoï ne peut pas tenir à l'armée. Il y a trop de contraintes, ça ne correspond pas à son caractère. Il prend sa retraite. Il part faire un voyage à l'étranger. Et il va notamment résider à Paris. Et là, commence déjà à s'ancrer dans son esprit son idée qui va régner sur toute sa conscience, l'abolition de la peine de mort. Il assiste à une exécution capitale en plein Paris, il en est écœuré, et jamais il ne reviendra sur sa position. En 1860, il crée à Yasnaya Polyana une école pour les enfants de paysans et une école avec des principes qui, à l'époque, étaient révolutionnaires. Sans hiérarchie, sans contrainte. Et puis, au passage, mais on a On n'en parle pas toujours dans les biographies de Tolstoï. Il a des relations avec les paysannes du coin. Il a avec une notamment, Aksinia, dont il aura un fils. Et puis, en 1862, il se marie. Il se marie avec Sophie Andreevna Bers. C'est la fille d'un médecin d'origine allemande. Elle a 20 ans. Il est beaucoup plus âgé qu'elle. Et déjà, avec ce besoin de sincérité, il lui donne à lire avant le mariage son journal intime, où il raconte ses aventures. La jeune Sophie est peut-être un peu choquée, on le sait parce que elle aussi va tenir un journal intime. Et on a gardé ces journaux intimes. Et leurs enfants aussi vont tourner leur journée, vont tenir leurs journaux intimes. Et leurs enfants, ils en auront 13. Tous ne survivront pas, mais... Et Sophie se met tout entière au service de l'œuvre de son mari. C'est elle qui recopie les manuscrits, c'est elle qui met de l'ordre dans son écriture qui est parfois difficile à déchiffrer. Elle dit dans son journal intime qu'elle a dû recopier 7 fois La guerre et la paix. Quand on connaît la dimension de l'œuvre, on ne peut que l'admirer et je ne pense pas qu'elle ait exagéré. Et voici le plein épanouissement pour Tolstoï. Entre 1865 et 1868, en revue, il fait paraître son œuvre majeure, son œuvre principale, Guerre et paix. C'est une œuvre gigantesque. En gros, il y a 2 époques dans cette œuvre, 1805. 1805, c'est Austerlitz, c'est la victoire de Napoléon sur l'Europe. Et 1812, c'est Napoléon à Moscou qui voit brûler la ville qu'il ne pourra jamais prendre et qui sera obligé de commencer ce qu'on a appelé la retraite de Russie. Et puis il y a après, on retrouve les personnages quelques années plus tard, quelques années après la date du roman. Si jamais vous avez l'occasion, n'hésitez pas à voir le film, un film américain, mais très réussi, où les personnages principaux sont incarnés par Audrey Hepburn, Mel Ferrer, notamment. Et puis, disons 4 ans après, toujours par l'intermédiaire de la presse, paraît Anna Karénine. Alors Anna Karénine, c'est aussi une œuvre considérable par sa taille, par ses répercussions. Si vous avez l'occasion, il existe 2 films où Anna Karénine est incarnée par la même comédienne, Greta Garbo. Un film muet et un film parlant. Mais il y a aussi, en 1948, un film de Julien Duvivier, un Français, un film qui va tourner à Londres, avec Vivian Leigh dans le rôle de Anna Karénine. C'est après que les choses vont commencer à évoluer de façon irréversible. Entre 1880 et 1882, il traverse une crise aussi bien morale que religieuse, où il remet en cause toute sa vie. Il écrit ma confession. Il va devenir un peu ce qu'on a appelé par la suite le musique prophète. Ça va jusqu'à une intervention qu'on lui a beaucoup reprochée en 1881, lorsque le tsar Alexandre II est assassiné en plein Saint-Pétersbourg. Il va écrire au nouveau tsar, Alexandre III, pour lui demander de gracier l'assassin de son père. Et il va écrire, Tolstoï, par la suite, d'autres œuvres qui sont remarquables dans leur genre, mais qui n'ont pas la dimension des œuvres précédentes. La mort d'Ivan Illich, la sonate à Kreutzer, le père Serge. En 1899, il fait paraître son dernier roman, Résurrection. Et il s'insurge contre l'Église traditionnelle. Pour lui, l'Église a trahi l'Évangile. Elle ne respecte pas la non-violence. Et puis, surtout, elle est liée à l'État. Alors, il va devenir peu à peu une sorte de prophète, de gourou. Ceux qu'on a appelés les Tolstoïens vont essayer de le rejoindre à Yasnaya Polyana. En 1891, il renonce à ses droits d'auteur pour en faire don à des œuvres. Et dans la famille, la guerre s'installe. La guerre s'installe parce que Sophia ne veut pas renoncer aux droits d'auteur, elle a des enfants à élever, elle veut continuer à les élever. Les fils du couple prennent parti pour la mère, les filles prennent parti pour le père. Et en 1901, il est excommunié. Mais à ce moment-là, il est déjà une idole universelle. Et nous arrivons à la crise finale le 28 octobre 1910, alors qu'il dort dans son cabinet de travail, il se réveille et voit son épouse en train de fouiller dans son secrétaire. Il ne supporte pas. Il se lève, s'habille, va chercher sa fille, marche, son disciple préféré, Tchertkov, et tous les trois s'enfuient de Yasnaya Polyana. Ils n'iront pas loin. Dans une petite gare qui s'appelle Astapovo, le train est obligé de s'arrêter. Tolstoï est en train de mourir. Sophia, qui a réussi à le retrouver parce que la presse mondiale s'est jetée sur l'événement, rejoint Astapovo, mais sa fille ne la laisse pas entrer dans le wagon où Léon Tolstoï est en train de mourir. Lorsqu'enfin, elle la laissera pénétrer jusqu'au lit de mort de son mari, ce dernier est déjà complètement inconscient. Il meurt le 7 novembre. Il sera enterré à Yasnaya Polyana le 9 novembre. Enterré dans sa propriété, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est excommunié. Et aujourd'hui encore, ceux nombreux qui vont voir la demeure de Tolstoï à Yasnaya Polyana se recueillent traditionnellement devant un petit tertre, un monticule sous lequel est enterré Léon Nikolaïevitch Tolstoï. Je vous remercie de m'avoir écouté.